regarde juste sur la table.
Bonjour.
Oh. Hello. Hello.
Ça y est.
Salut.
Ça y est, c'est la bonne. C'est le podcast des annulations qu'on vous avait promis. Est-ce que je peux avoir un what what des Perdusiens?
What what?
Hein?
Bon, on l'a déjà dit, il y a de plus en plus de nouvelles séries à la télé américaine. Ça nous donne un paysage sériel de plus en plus saturé. Et en plus de ça, les chaînes US semblent mieux respecter leur production et les annulations en cours de saison sont de plus en plus rares. Il n'empêche que, voulu ou non, préparé ou non, la fin d'une série laisse rarement un téléspectateur fidèle satisfait. Donc à la manière de John or Die, l'émission de Craig Ferguson sur The History Channel, la rédaction va choisir quelle annulation slash départ l'a le plus marqué. Est-ce que ce sera une série avec une brave épouse? Est-ce que ce sera une série avec un brave homme qui cherche l'amour? Est-ce que ce sera une série avec la brave Laurie Metcalf dans le rôle titre? Est-ce que ce sera une série avec la brave Paget Brewster dans le rôle d'une grand-mère? Honteux.
Honteux.
Est-ce que ce sera une série avec un brave chevalier chanteur ou celle avec un brave cannibale? Autour de moi, 4 membres de la rédaction. Nicolas, Aïcha, Jérôme et Fertis. Donc, on se lance tout de suite. Hannibal, qui a regardé en entier.
Moi.
J'ai pas regardé les 2 derniers épisodes de la série.
Comment? Mais pourquoi?
Parce que je sais pas, parce que...
Mais le dernier épisode est le meilleur.
Mais alors, avant de commencer par le dernier épisode...
Regarde les 2 derniers, si toi tu regardes Rick and Morty saison 1.
Mais arrêtez avec Rick and Morty.
Ah, c'est bien, ça fait un côté feuilletonnant au podcast, c'est bien, ça permet de dire et pourquoi il dit ça dans l'épisode précédent, j'ai loupé un truc.
Oui, parce qu'il faut que si vous n'avez pas écouté les podcasts précédents, il faut arrêter tout de suite et écouter l'avant-dernier podcast publié où Iris menace de quitter la rédaction si on regarde pas Rick and Morty. Et pour vous convaincre.
Par miracle, je fais encore partie.
Et elle dit du mal de Community.
Très beau nombre de 0 articles signés par année.
Ouais, ça fait autant que Tigrou et il est autant membre de la rédaction que toi. Donc,
oui, mais lui, c'est un alumni d'EDUSA.
C'est vrai.
Ouais. Enfin, surtout, il a un agent, donc il est beaucoup plus important que nous. C'est quoi d'ailleurs dans. On parlait de quoi comme série là? Hannibal.
Hannibal, mais je suis la seule à vouloir défendre cette série.
Et bah, tu vas la seule à déjà nous expliquer ce que c'est.
C'est une série Brian Fuller. Et d'habitude, je les aime pas beaucoup. Genre, Pushing Daisies, j'avais détesté.
Ok.
Donc voilà, je mets les choses à plat.
Et Wonderfalls?
Et Dead Like Me?
Et Dead Like Me aussi, j'avais...
Oh, Dead Like Me, il a écrit 4 épisodes.
J'étais jamais rentrée dedans, en fait.
Ok.
Voilà, je dis jamais...
D'accord.
Ça sympa, mais sans plus, quoi, voilà.
Ok.
J'ai eu un coup de foot pour Hannibal. Hein.
Pourquoi?
C'est pour ça que je manque d'objectivité, hein. Mais j'ai...
Alors que moi, j'ai réussi à toujours rester objectif sur Community.
Toujours. Mais je suis un peu plus au même niveau que toi sur, sur Hannibal. Même niveau que toi avec Community. Hein.
Alors, pourquoi c'est bien? Et pourquoi c'est différent des autres productions de Brian Fuller?
Oh là là.
Ok.
C'est dur comme question, moi.
Sinon, ça va?
C'est très beau.
Ouais.
C'est très beau. C'est extrêmement bien réalisé. Je sais que ça peut... ça peut l'être trop, parfois, pour certaines personnes. Je comprends tout à fait l'argument de ça se oui Jérôme oui ça se regarde un peu trop le nombril oui ok moi j'ai vraiment adoré cette histoire entre Hannibal et son psy hein. Enfin son psy non un autre psy quelqu'un d'empathique il est autant empathique que Hannibal est sociopathe. Et c'est tellement une très belle histoire d'amour. Entre les deux. Oui, oui.
C'est une histoire d'amour avec des sous-entendus homosexuels ou c'est simplement une belle histoire d'amour d'amitié entre deux hommes hétérosexuels?
Non, c'est une histoire
d'amitié. Ça n'existe pas, les belles amours d'amitié entre deux hommes. Il y a toujours un sous-texte homosexuel.
Surtout si c'est moi qui regarde. J'ai tendance à voir ça.
Surtout si c'est Internet qui regarde, ou Tumblr.
Et surtout, c'est deux beaux acteurs. Ils sont tous les deux très très beaux.
Une constante dans toutes les séries que tu regardes, pour l'instant.
C'est vrai, j'avoue.
Mais une question, tu dis en saison 3, Hannibal, il a un nouveau psy ?
Non.
Alors, bon, puisqu'on en est sur le terrain de la plastique, des personnes qui font des guilis-guilis en bas du ventre, il y a bien Gillian Anderson à un moment dans cette série.
Ah, mais oui, elle est géniale.
Elle est géniale.
Elle est absolument géniale, elle est magnifique.
Elle a une scène exceptionnelle dans le premier épisode de la saison 3, qui est le seul que j'ai vu, où elle va acheter du saucisson.
C'est vrai, boucherie,
et elle fait
et des truffes blanches, s'il te plaît, et du vin blanc.
Elle prend un air hyper inspiré, elle fait « Bonjour, je voudrais du saucisson. »
N'importe quoi.
Et c'est la seule ligne de dialogue pendant 10 minutes.
Elle le dit en italien déjà, donc s'il te plaît.
« Buongiorno, je voudrais du saucisson. »
Donc, à part le fait qu'il y ait Guy Anderson et des beaux acteurs, pour l'instant...
Et que c'est beau.
Désolé.
Et que c'est beau.
C'est une série qui explore la noirceur de l'âme. Voilà, ça vous plaît ça? Et elle explore très bien. Et elle explore aussi bien les relations humaines et la.
Et ils en étaient arrivés.
La complexité des relations et la complexité des attirances.
Oui, en gros, c'est.
Non, voilà.
C'est suffisamment ennuyeux pour qu'on puisse imaginer une romance entre les deux personnages principaux qui n'existe que dans la tête de celui qui la regarde.
BAM!
J'imaginais une romance entre Harry Potter et Draco Malfoy, hein.
Eh ben moi je dis, je vote pour.
On vient de partir sur de la fanfiction sur Harry Potter. La seule différence qu'il y a entre ce podcast et les trois précédents, c'est le fait que certains podcasteurs boivent de l'alcool maintenant.
C'est vrai.
Bon, est-ce qu'on peut revenir sur le sujet en lui-même, à savoir Hannibal ?
Qui est une fanfiction Hannibal ?
Mais ça, c'est quand même dans un... Jérôme lève le doigt comme un... Jérôme veut dire quelque chose.
J'ai une question pour Delphine.
Yay,
go. Est-ce que t'es contente que la série se soit arrêtée à ce moment-là ?
Oui.
Ou est-ce que t'aurais aimé une quatrième saison qui fasse le silence
de retire ma question suivante. Pardon. Quelle ?
Non, enfin, ça s'est très bien terminé pour moi. Ça se termine... pas comme je l'attendais, mais la fin m'a satisfaite, donc je considère qu'il n'y avait pas besoin d'une quatrième saison. Même si je pense que j'aurais aimé en voir une, je n'ai pas pleuré sur la fin de la série.
Et tu avais vu les films ? Et lu les bouquins ?
Non, je n'ai pas lu les bouquins. Les films, bah, j'ai vu, comme tout le monde, j'ai vu...
Le Silence des Agneaux.
Hein.
Que je n'ai pas vu.
Et je ne sais plus lequel aussi.
Et Sixième Sens, non ? Sixième Sens, c'est le premier film, en fait.
Il y en a eu d'autres, mais...
Ouais, t'as eu Hannibal, qui lui est d'une bouse fumante.
Ouais.
Avec, de Ridley Scott, et tu as Dragon Rouge avec...
Dragon Rouge, ouais.
Norton.
Et du coup, est-ce que la série rentre dans un univers qui est déjà... qui forme un tout cohésif ? Est-ce que ça s'imbrique bien avec les films ? Ou est-ce qu'il est parti sur une direction qui est totalement différente et que ça se dissocie parfaitement ?
Je crois pas qu'il se soit éloigné. Il a repris les mêmes personnages, d'après ce que j'ai pu lire. Hein. Il a repris les mêmes personnages. Ouais. Mais en adaptant, en les intégrant dans son univers. Il faut bien l'avouer, son univers onirique, Brian Fuller, est quand même très particulier.
C'est ça. C'est quand même une grosse cassure avec le reste de ses productions. Où moi, contrairement à toi, j'avais beaucoup aimé Wonder Falls. Ouais. Pushing Daisies m'a vite lassé, mais je trouvais ça assez sympa. Je vais mettre Dead Like Me dans une autre case, parce que bon, il a écrit que 4 épisodes, il s'est barré assez vite. Ouais. C'était un bon pilote, le reste de la série était assez foireuse, mais je pense pas nécessairement que ce soit de sa faute. Ouais. Moi, j'étais très gêné, du coup, par la noirceur de l'épisode et son aspect de glorification gore.
Oui, je comprends.
C'est une esthétique qui est très particulière et qui m'a mis très très mal à l'aise. Alors, ça vient avec le propos, hein.
Oui, non, mais c'est sûr que je suis rentrée dedans immédiatement, c'est-à-dire que je suis vraiment tombée amoureuse de la série.
Et pas que, visiblement.
Pas que.
Du coup, à part Delphine, personne n'a vu ses dernières saisons.
Moi, j'ai vu 80% de sa dernière saison.
Pourquoi t'as pas regardé la fin ?
Sincèrement, parce que je me suis jamais senti d'humeur à la regarder.
Mais qualitativement, pour toi, c'était une bonne série?
Oui, c'était une bonne série. C'était une bonne série.
Mais pas une série qui mérite d'être en finale dans ce podcast.
Quoi?
Pas une série qui mérite d'être en finale dans ce podcast des meilleures animations.
Non, absolument pas.
Oh là, vous me brisez le cœur.
Je connais des gens qui ont regardé les trois saisons.
Je connais le sentiment.
Qui avaient beaucoup aimé les deux premières, et pas vraiment la troisième. Vous qui avez vu la troisième, ou 80% de la troisième, elle est vraiment différente des deux premières?
Oui, ça c'est un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie en Europe, en Italie, et c'est un petit peu longuet. On est d'accord.
C'est très longuet.
On est d'accord.
Donc on peut lui dire bye Felicia sans souci.
Bah bye Felicia, même si ça me brise le cœur, oui.
Oh.
Mais tant pis.
Et moi j'ai perdu Bojack Horseman et Rick and Morty, donc bon.
On fera un club après, le club des cœurs brisés.
Voilà.
Alors, juste avant de parler de la prochaine série, c'est The Grinder ou The Grinder? Est-ce qu'on peut tous se mettre d'accord une fois pour toutes? The Grinder.
Grinder.
Très bien. Bon, à part empêcher Roblo de polluer une série qu'on regarde et qu'on aime vraiment, c'était quoi l'intérêt de The Grinder?
Oh, moi je trouvais ça très très drôle. Cet aspect méta, cet aspect où Roblo se moquait de lui-même, je trouvais ça vraiment très très drôle.
Et ça parlait de quoi?
D'un acteur qui jouait un avocat pendant des années, The Grinder, et qui d'un coup quitte sa série, et comment il, après ça, il rejoint la vraie firme d'avocat de son père, en se croyant à fond toujours dans le rôle du Grinder.
Ok. C'était écrit par qui? En quoi c'était bien? Enfin, pourquoi c'était...
Alors, qui l'a écrit? C'est deux mecs qui ont fait... C'est deux mecs qui ont fait du cinéma avant ça,
oh,
je crois. Mais j'oublie leur nom. Et c'est pas produit par... je suis un peu à la remorque.
Mais il me semble que pourtant, t'es l'un des rares avec moi à pas boire d'alcool.
Bah oui, c'est pas bien.
C'est peut-être le problème.
Bon, c'est écrit probablement par quelqu'un.
C'est écrit par des gens, donc.
Et, mais qu'est-ce qui faisait l'intérêt de cette série? Pourquoi cette annulation vous a un peu peiné? Si elle vous a peiné.
Il y avait un bon casting.
Déjà. L'annulation m'a pas peinée, j'ai pas regardé les deux derniers épisodes.
Moi non plus. Hein.
Wow, il y a comme un pattern là.
disons que c'est toute la partie, comme disait Aïcha, toute la partie méta, se moquer des productions télévisuelles sur le thème des avocats, c'était drôle. Mais en dehors de ça, c'était fastidieux. Hein.
Mais je suis assez d'accord.
Le principe n'est pas un peu répétitif.
Et Timothy Olyphant, qui joue pareil, le même rôle que Rob Lowe, mais c'est le jeune. Je ne vais pas le remplacer, quoi, en gros. Hein, et tout ça, c'était très très drôle. Hein, mais en dehors de ça,
C'est le problème en fait, c'est qu'on est dans le registre du clin d'œil, mais que ça suffit pas à faire une bonne histoire.
Et moi j'ai trouvé ça sincèrement, j'ai beaucoup aimé la suivre parce que chaque semaine ça me garantissait, je savais que j'allais me marrer devant l'épisode, je savais vraiment que l'épisode allait me faire rire.
Je suis d'accord.
Et j'ai beaucoup aimé la série pour ça, mais c'est pas forcément une série que je regarderais en binge-watching comme ça parce que je supporterais pas, je pense.
Moi j'aimais bien Rob Lowe dans certaines limites, au début il me faisait vraiment rire. J'étais content de revoir Nathalie Ramirez de Middleman, qu'on voit beaucoup trop peu à la télévision. Quoi.
Mais les propos que Rob Lowe a eus sur Twitter suite aux attentats et tout ça, j'avoue que ça m'a un peu gâché mon visionnage de la série.
C'est sûr.
C'est un gros con, hein, Rob Lowe.
Voilà, c'est ça.
C'est un gros con, Rob Lowe.
Ça fera un très bon titre pour le podcast. Cet épisode.
Non, mais on le savait déjà, mais c'est vrai.
On s'en doutait.
Je ne le savais pas.
Ouais.
Ok, donc on tège.
Ouais. Ah bah non, clairement, pour moi, c'est l'annulation qui me fait le plus de mal.
Ah bah non, super, maintenant il n'est pas d'accord. Il faut vraiment qu'il se démarque, lui.
Mais non, alors, parce que ça veut dire que.
Pourquoi ça t'a fait mal?
Rob Lowe, il va arriver dans Code Black et il va bousiller cette merveilleuse série médicale.
Ouais, c'est un
gros problème. Si il avait continué dans sa sale série pourrie, au lieu de venir. Polluer, comme tu disais, les bonnes séries, ça aurait été très bien, là, The Grinder.
La dernière fois qu'il est arrivé dans une saison 2, c'était dans Parks and Rec, c'était pas...
Ah bah oui, ça a bousillé la série.
Ah, c'était pénible, hein. Heureusement qu'il y a Adam Scott.
Ouais.
Oh.
Bah, disons que c'est
sur il a eu une blague drôle sur 4 saisons.
Vous êtes tous d'accord? Bon, d'accord.
Mais oui, on est tous d'accord.
Voilà, on dit au revoir à The Grinder.
Allez, on tège. Bon, alors, on sait que ton esprit perverti, Delphine, va voir une bromance gay dans cette la série suivante, mais Looking, tu vas encore nous trouver un contexte homosexuel là-dedans. Moi, quand je regarde la fiche de Looking, je vois trois poètes qui sont au soleil
et qui regardent droit devant
et qui regardent quelque part. Mais comme ils sont beaux, j'imagine que toi, t'imagines qu'ils couchent ensemble.
Eh ouais. Je l'ai pas imaginé, franchement... hein, ils le montrent aussi, hein, c'est bon, hein. Ça va.
Ils couchent pas ensemble, ces trois-là.
Alors.
T'as vu le film ?
Ouais.
Il y a vraiment eu un
film. Il se passe des trucs, hein.
Ah oui, c'est pas qu'il y a eu un
film. Ah bah, ils presque couchent ensemble.
Je l'ai même pas vu en entier.
Ah, le film est vraiment bien, hein. J'ai vachement aimé.
On peut commencer par le début. Looking, ça parle de quoi ? Et qui veut en parler ?
Je crois que j'ai de nouveau pas vu les deux derniers épisodes.
Par souci, ma fille.
Mais c'est des beaux hommes qui vivent au-dessus de leurs moyens à San Francisco. Hein.
Et on a le bon.
Ils sont homosexuels, voilà.
Et on a le verre de vin qui se verse en fond sonore quand tu. Quoi, tu nous expliques la série ? À quel point c'était bien ?
Bah moi j'ai adoré aussi, donc voilà. Mais je crois que Jérôme a moins aimé. Hein.
Oh, ça va être le premier podcast en finaliste, ça va être trop bien.
Donc, là encore, cette annulation, moi, elle me fait du mal parce que j'aime pas foncièrement la série. Mais comme tu disais, comme on a évoqué ce point dans le précédent podcast, c'est une série originale puisque une série centrée sur les gays, il y en a quasiment pas à la télé aux États-Unis et en France.
Bah, il y a Arrow.
Il
y a Arrow.
Arrow.
Et non, et c'est pour ça que c'est pour son thème, c'est pour les personnages qui étaient représentés que cette annulation me fait mal. Mais foncièrement, c'est pas une série que j'aimais beaucoup puisque j'avais un gros problème avec le personnage principal que je trouvais pas crédible et dont les problèmes, c'est vraiment les gros problèmes de riches, quoi. Ça m'intéressait. Ces problèmes à lui m'intéressaient pas trop. Il y avait quelques personnages périphériques sympathiques. C'est toujours sympa de voir une ville qui est pas souvent filmée. Enfin, je sais pas, San Francisco, on la voit pas beaucoup. D'avoir filmé comme ça, avoir des endroits connus. Enfin, mais le téléfilm clôt de façon un peu radicale tout le truc, c'est-à-dire que c'est la happy ending pour tout le monde. Tout le monde va.
Ça fait du bien.
Mais oui, mais.
La happy ending, ça fait du bien. Ok.
J'ai ri parce que j'imaginais, j'ai en train de regarder Looking, là. Oh, ils nous emmerdent avec leur programme de riches et tout. Je vais regarder Real Housewives, ça va me faire changer. Au moins, là, on va revenir dans le réel.
Tu vois, ton argument paraît un peu crédible.
Mais
pour le coup.
Mais oui, c'est dommage que cette série n'existe plus. Je comprends pas. HBO, ça doit coûter mais 3,50€. Looking, il y a quoi ? Il y a 4 acteurs, un décor. Par rapport à Game of Thrones, ça doit coûter quoi ? 2 images de dragon. Je comprends pas pourquoi HBO a annulé une série qui était originale.
Mais c'est le paradoxe d'HBO ces dernières saisons, c'est de vouloir créer des séries de niche et dire « Oh, il n'y a qu'une niche qui la regarde. » Genre Togetherness.
C'est ça, c'est incompréhensible.
Getting On. Même chose pour Looking. Enfin, il y a le côté « Oh, bon, c'est une petite série. » Et pourtant, elle ne cartonne pas. Il y a un moment, il faut choisir. Okay. En même temps, si l'idée, c'est de dire « On va supprimer toutes nos petites séries parce que vraiment, vinyle nous a coûté beaucoup trop cher. » Il y a peut-être un problème au niveau du dispatching des budgets, quoi.
Et c'est ça qui est bizarre parce qu'HBO, ils s'en sortent plutôt pas mal sur les formats courts, sur les comédies noires, genre VIP, genre machin, tout ça. Mais pourtant, ils annulent à tour de bras et... Je sais pas.
C'est ce que disait Tom Fontana à ATX avec David Simon. Il disait « J'ai l'impression qu'en fait, le succès donne encore plus la trouille que l'échec. » Et l'impression que HBO, qui devrait être un peu sûr de ses forces, sait plus du tout quoi faire, quoi produire, comment se débrouiller. Au-delà de l'arbre Game of Thrones, on a l'impression que la forêt est vraiment un bazar sans nom, quoi. À croire que de toute façon, l'objectif, c'est de croiser les doigts pour que Westworld permette d'avoir à nouveau une espèce de nouveaux paravents. Mais la politique
soyons clairs, ça va être acheté par terre, non, Westworld.
Mais ils ont déjà des problèmes d'entrée de jeu sur la façon dont ils ont évoqué la violence faite aux femmes. Et alors le pire, ça a été le nouveau responsable des programmes, je crois, de HBO, qui a dit qu'on lui a posé la question sur Autissier, sur comment est-ce qu'il gérait la violence faite aux femmes, et sa réponse a été catastrophique. Je ne sais plus quelles étaient les
questions. C'était quoi?
Je vais te retrouver ça. Meublé.
Non, mais donc Looking, c'est vraiment dommage que ça ait été annulé, puisque c'était une série originale. On n'avait pas ça à la télé.
Non. Et la deuxième saison était beaucoup plus aboutie que la première.
Oui, c'est vrai.
Iris, pourquoi tu n'es pas partie au bout de Looking?
Parce que ça m'a lassée.
C'était très bien comme réponse.
C'est tout cadement, ça m'a lassée. Enfin, leurs problèmes m'ont lassée, leurs histoires m'ont lassée, leurs personnages m'ont lassée.
Donc, on ne garde pas Looking en finale?
Non.
Non.
C'est le problème, en fait, c'est qu'on ne s'attache pas beaucoup aux personnages des séries, de ces séries-là en ce moment. Ces petites séries, c'est qu'on les voit, on dit ouais, c'est cool, mais en même temps, on les voit plus,
On va continuer avec une petite série, là. Mais ouais, et là, tu vas voir qu'on s'attache à mort. Bon, moi, j'aime pas ne pas regarder une série avec Laurie Metcalf, mais bon, une comédie de HBO, remake d'une série anglaise, j'y croyais moyen. Pourquoi j'ai tort?
Produite par l'équipe de Big Love, si je me trompe pas.
Oh, c'est ça.
Oui.
Donc, comment on arrive à contrecarrer tout ça? Et est-ce que Laurie Metcalf en vaut vraiment la peine?
Laurie Metcalf en vaut toujours la peine.
Mais bien sûr, elle en vaut toujours la peine. C'est une question
rhétorique. De toute façon.
Voilà, c'est une question rhétorique, on est d'accord, elle en vaut toujours la peine.
Ça parle de quoi?
Ça parle d'une aile gériatrique dans un hôpital.
Alors, c'est sûr que ouais,
voilà.
C'est pas méga vendeur. Mais c'était une vraie comédie ou c'était une comédie à la Nurse Jackie? En gros. Ouais, ça se passe dans l'hôpital, et puis ça dure une demi-heure, et regardez, notre personnage principal, il est bizarre, et il y a la bine ailleurs.
C'est ça, ça se rapproche plutôt de The Office, puisque le personnage principal qui est... c'est pas vraiment le personnage principal, mais le personnage de Laurie Metcalf, c'est un peu... Comment c'était dans The Office?
Michael Scott.
Ouais, c'est un peu le Michael Scott de l'aile.
Peut-être plus David Brent, la version britannique, que Michael Scott d'ailleurs.
Alors déjà, vous avez vu la version originale de Getting On?
Non. Non,
c'est pas vu. Et c'est un vrai problème puisque les trois scénaristes principales de la version anglaise, ce sont les trois actrices.
Ah, tu savais pas? Ouais. Je savais pas.
Et non, ça a franchement l'air hyper hyper bien. Toute la première saison de Getting On est adaptée de script anglais, et après j'ai l'impression que ça dévie.
Oui, parce qu'il parle beaucoup du système d'assurance et du système médical américain, donc c'est spécifique.
Mais c'est une vraie comédie où il y a des moments dramatiques.
Non. C'est une comédie noire. C'est très très noir. C'est très très.
Le pilote pour ça est super. Tu prends une vraie gifle quand il y a une histoire d'une vieille mamie qui est asiatique et on essaie de comprendre ce qu'elle dit et on répète à quelqu'un qui est au téléphone avec un traducteur pour essayer de comprendre ce qu'elle dit. Et la scène dure et c'est vraiment l'humour façon Hello Ladies, mais bien bien géré pour le coup. En mode l'humour vient vraiment du malaise quoi. Et le pilote, encore une fois, c'est une gifle, quoi. La première fois, tu fais « Oula !»
Et il y a combien de saisons de Getting On?
3 saisons.
C'est assez? Ou vous êtes resté sur votre fin?
Non, c'est pas assez. Moi, j'en avais vu plus encore. Surtout que c'était peu d'épisodes.
Ouais, c'est 6 épisodes chaque saison. Ouais. Ça fait que 18 épisodes. Et à mon avis, ça coûte encore moins cher que Looking, puisque là, clairement, ils ne tournent même pas dans des lieux qui existent ou quoi que ce soit. C'est un décor
Il y a un décor, zéro scène extérieure, donc vraiment zéro.
Le truc est acclamé, il y a 2 ou 3 nominations aux Emmy pour les actrices qui sont phénoménales. Il y a plein de choses à dire. C'est une série hyper originale encore, c'est à dire que c'est un monde hyper féminin, puisqu'effectivement des êtres humains de plus de 85 ans, il doit y avoir 90% de femmes. Et
c'est dans le soin, et on sait que dans
c'est des femmes qui s'occupent. C'est des femmes qui s'occupent de patients dont les hommes ne veulent pas s'occuper, hein, de toute façon. C'est fascinant. C'est quelque chose d'hyper original. C'est quelque chose qui a complètement sa place sur HBO. C'est comme Looking. C'est une série de niche. Et puis le truc, il est annulé sans aucune raison.
Mais pour le coup, c'est quand même plus réussi que Looking.
Oui, moi je préfère énormément Getting On.
Iris, tu as regardé la série?
J'ai pas regardé, mais j'ai noté le nom parce que j'ai envie de la regarder maintenant.
Tu veux en profiter pour dire du bien de Rick and Morty pendant une minute? Parce qu'on t'a pas entendu là.
Je vous déteste.
On regarde Getting On en finale, bien
évidemment. Oui. Je suis tout à fait prête à regarder.
Cool. Bon, alors, Galavant. Est-ce que c'était mieux que The Neighbors, la série précédente de Dan Fogelman? Est-ce que c'était mieux que Neighbors, le soap australien avec Kylie Minogue? Galavant.
C'était. Je savais qu'il y avait un soap avec Kylie Minogue.
Je ne savais pas non plus.
Et Nathalie Imbruglia?
Mais avec Jason Donovan.
Mais bien sûr.
Oui.
C'est le soap.
Je vois absolument pas qui est Jason Donovan.
Oh.
C'est bon, j'ai la vie, t'as 14 ans, ça suffit.
Et je m'appelle Estelle.
Donc, Galavant, ça chantait.
Ouais.
Fertis y voyait une histoire gay quelque part, bien évidemment.
Ah bah oui, évidemment.
Ah bah là.
Et de quoi ça parlait?
D'un chevalier qui veut d'abord reconquérir le cœur de sa femme qui a été enlevée par un méchant seigneur.
Ok.
Et ensuite, dans la deuxième saison, on a un chevalier qui part à la rescousse de sa fiancée, enfin de la femme dont il est amoureux, hein, qui a été enlevée. Hein.
Ok. Bon, c'était une série musicale. Même question que pour Crazy Ex-Girlfriend. Est-ce que les chansons étaient intégrées de manière organique dans l'intrigue? Est-ce qu'il y avait un cahier des charges qui faisait que c'était un setup qui était bien formaté et chaque épisode devait rentrer sous le même format narratif? Et deuxième question, est-ce que les moments non chantés sont aussi bien et aussi drôles que les moments chantés?
Alors, je trouve que les chansons s'intègrent mieux que dans Crazy Ex-Girlfriend.
Oui.
Pareil. Ouais.
Je trouve que les moments entre les chansons sont plus drôles aussi que dans Crazy Ex-Girlfriend.
Je trouve aussi.
Mais bon, c'est dû à des personnages...
À un rythme aussi plus punchy que Crazy Ex-Girlfriend.
Oui, c'est plus soutenu.
C'est un rythme très très soutenu, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment... Il y a très peu de temps entre les chansons.
Ouais.
On se rapproche beaucoup plus d'un Dr. Horrible qu'avec The Ex-Girlfriend.
Oui, tout à fait.
Et le renouvellement de la série m'a un peu surpris. Est-ce que l'annulation vous a surpris et peiné?
Non.
Ou deux saisons, ça y est, c'est bon, on a fait le tour et...
Surpris, non, parce que les audiences étaient catastrophiques, donc non.
Mais peiné?
Mais j'étais attristée, oui.
Moi, j'ai été attristée aussi. Je regrette vraiment parce que c'est la chanson principale est géniale et elle me met de bonne humeur. Et c'était une série qui me mettait de bonne humeur, ouais. C'est ça. C'était vraiment une série qui mettait de bonne humeur.
Et Timothy Hamilton est absolument génial.
Il est fantastique.
Si c'est le mec mignon, je suis tout à fait d'accord.
Non, c'est
le roi.
C'est le roi.
Non, c'est le roi.
Ouais.
Mais c'est du roi que je parlais.
Il est très très drôle.
Non, c'est vrai que moi j'ai pas été, je suis beaucoup plus peiné, je me suis toujours pas remis de l'annulation de The Neighbors et ça me peine,
mais bien sûr
ça me peine plus qu'on ait pas de nouvelles des Abrovniens que de pas revoir l'équipe de Galavant, même si comme vous l'avez dit ça marche vachement bien parce que tous les personnages sont bien fichus. L'ex dulciné de Galavant est un personnage intéressant, le personnage qui est joué par Vinnie Jones, l'espèce de brutasse, enfin tous sont vraiment bien dessinés. C'est sans doute ça la grosse différence aussi entre Crazy Ex-Girlfriend et Galavant, c'est que l'ensemble du casting est au même niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui est largement au-dessus et les autres qui sont vraiment en faire valoir. Mais ouais, non, c'est The Neighbors, moi qui...
C'est vrai que The Neighbors, c'était vraiment génial.
Oh ouais.
Je me rappelle plus de The Neighbors, c'était le truc avec les aliens.
Ouais.
J'aime pas du tout.
Ah ouais?
Ouais. Ça me plaisait pas du tout.
Mais c'était un peu Rick et Morty, mais avec des vrais acteurs.
Comment tu pourrais savoir ça? Tu te rappelles même pas de Rick et Morty saison 2.
Donc.
C'est le vin, c'est tout ce vin, je vais tout le temps en train de boire.
Eh ouais.
Pas du tout.
Donc, pour l'instant, est-ce que. Elle reste en finale avec Laurie Metcalf.
Oui.
Ouais.
Oui. Oui.
Alors, avant de parler de la dernière série, on va faire un petit détour parce que dans mon intro, personne m'a dit que je m'étais planté. J'ai parlé de Paget Brewster en tant que grand-mère et c'est pas du tout dans cette série. C'était pas dans The Grinder. Et bah du coup, on va être obligé de parler de Grande Faveur pour pas me faire mentir.
Ah, avec John Stamos.
Si, c'était annulé.
Quoi donc?
Grande Faveur.
Oh, j'ai pas regardé ça.
Quelqu'un a regardé?
J'ai regardé, moi.
Ok, très bien. Bah, maintenant, merci de ne pas m'avoir fait regarder.
Je crois que j'ai regardé peut-être 4 épisodes, il me semble.
Ah, c'est bien.
Ou un petit peu plus.
Voilà. Oui.
Pour moi, le meilleur moment de John Stamos, c'est dans le pilote de Galavant, justement. Non, dans le deuxième épisode, dans le combat face à face, quand il met son casque et qu'il est malade. Ça m'a fait.
Ah, j'ai eu peur, je pensais que t'allais partir sur Fuller House.
Non!
Ah, bah clairement, il était bien dans Fuller House.
Il faut blacker, non, pour ça, pour que ce soit intéressant, ces discussions.
C'est vrai.
Oh, une petite pensée.
Paix à son âme. Ou paix à son âme. C'est pas. Alors, allez, on va parler de notre dernière série. Peut-être pour la dernière fois, perdu là. The Good Wife.
Oh.
Donc déjà, est-ce que tout le monde a vu la dernière saison?
Bien sûr.
T'as pas vu les deux derniers épisodes? On sait, Iris. Tu t'es arrêté quand, Iris?
Début de la dernière saison, c'était quoi? Saison 6?
La dernière, c'est la 7.
Alors, début de saison 7.
Alors, on risque de te spoiler, ma fille.
C'est pas grave, vous m'avez déjà spoilé la dernière fois dont on a parlé de The Good Wife.
Ah, cool.
Et je vous avais même demandé de me spoiler.
All right. Bon. Moi, j'ai détesté la fin. Mais j'ai vraiment, vraiment détesté la fin.
Moi, j'avais bien aimé. Puis j'ai lu ton article et maintenant, je déteste la fin comme ça.
Bah oui, moi, pareil. J'ai le même problème.
Et qu'est-ce que vous aviez, vous, aimé à l'origine sur cette fin?
Je sais plus.
Ça remonte, là. Ça commence à remonter. Hein.
Bon, en gros, il y a quand même eu un gros détour sur cette fin de série où, au lieu de se concentrer sur... sur elle, on se concentre sur son rôle de Good Wife, encore une fois, elle doit sauver Peter. Et toute l'intrigue de Peter prend la grosse partie de la fin de saison. Donc, au lieu d'avoir une conclusion sur le personnage principal, on a une conclusion qui veut, pour un effet miroir, remettre Alicia dans la même situation que dans le pilote, mais montrer que c'est pas la même femme qu'avant, que c'est une fin beaucoup plus dure et beaucoup plus aigrie, et qu'elle est amenée à trahir la personne avec qui, ouais. Avec qui elle avait tissé une relation de respect.
Et lui, tu lui avais fait confiance.
Qui lui faisait confiance, et sachant qu'elle partait en tant qu'antagoniste au tout début de la série.
Oui.
Donc, moi, j'ai trouvé la gestion de toute cette fin de série particulièrement maladroite. Et du coup, ça ne me fait pas du tout confiance. J'ai pas du tout confiance dans l'idée du spin-off avec Christine Baranski.
Ce qui est pas mal, c'est que ça va pas être les Kings. Les Kings vont pas être très très impliqués dans le spin-off.
Je savais même pas qu'il y avait à avoir un spin-off.
Il va y avoir un spin-off avec Diane.
Est-ce
qu'il y aura Logan?
On ne sait pas pour l'instant. Il y a que deux actrices qui ont été annoncées dans la distribution. Donc pour l'instant, non.
S'il y a Logan, je serais obligé de regarder.
Alors, on va parler du traitement de Logan. Qui était une aberration la plus totale sur cette fin de série.
Depuis le début de la série, en fait. Logan, c'est peut-être le personnage... Carrie, c'est peut-être le personnage... Oui. C'est peut-être le personnage qui a été le moins bien traité par la série.
Oui, clairement, oui.
Clairement, alors, oui.
Oui et non.
Sauf que ça manquait sérieusement de scène où il glissait nu d'une baignoire.
On est d'accord, hein.
Je trouve que toutes les séries mériteraient avoir plus de scènes où les gens glissent nus d'une baignoire.
Alors, je viens vous dire que j'ai essayé de faire ça un matin à ma femme, elle n'a pas trouvé ça sexy du tout. Hein. Donc, avec vos bêtises de glisser nu d'une baignoire, merci.
On t'a dit quoi? Tu nettoies maintenant que t'as la mise de partie?
Exactement.
En même temps, c'est normal.
Non, Carrie, c'était un peu le personnage casse-gueule depuis le début de la série, parce qu'on voulait nous le présenter comme... l'un des antagonistes d'Alicia au début de la série. On s'est rendu compte que mince, Matsukri, il paraît sympa. Donc on va essayer de le garder dans la série.
Il fait quand même un excellent boulot.
Il fait un excellent boulot avec le peu de matériel qu'on lui donne. Mais il y a eu deux, trois...
excellent boulot.
Il y a toute une scène que vous ne pouvez pas voir entre Iris et Delphine. Bref.
Il fait un excellent boulot.
Donc Madurig avait quand même 2-3 intrigues qui étaient plutôt cool. L'une d'elles était quand même quand il était du côté de
Exactement, quand il était du côté du procureur. On revient un peu en fin de série là-dessus. Mais moi, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est quand... Enfin, de peine, non, parce que... Bon, mais ce qui m'a le plus embêté, l'un des aspects qui m'a le plus embêté dans la série, c'est que en fin de série, Diane dit « Ouais, bon, bah, il est gentil Carrie, mais il est mignon et un peu con. C'est pas Will. Toi, t'es Will. » Et sur la fin... en faire le mec qui se dit que bah en fait avocat c'était pas vraiment sa vocation
quoi
ouais mais oui ouais. Il arrête d'être avocat, il devient prof.
Oui, alors c'est pas super grave,
la pire destinée qui puisse être
la pire destinée possible.
Non, mais prof aux États-Unis,
voilà, oui,
un hobby quoi,
j'imagine bien
un hobby. Il aurait pu faire du cosplay, ça aurait été moins humiliant quoi.
Non mais je pense que son personnage a été le plus maltraité.
Mais bien sûr.
Vraiment, par toutes les story, c'est-à-dire qu'il en a pris plein la gueule, il s'est fait trahir de tous les côtés. Alicia et Amy font d'un... Enfin, ils montent leur boîte ensemble, et leur cabinet ensemble et tout. Elle le trahit mais 10 000 fois.
Ouais.
En fait, il se fait trahir par Diane 10 000 fois aussi. Hein. Il en prend plein la gueule tout le temps, et à la fin, il en a tellement marre qu'il devient prof.
C'est le personnage qui, après le final de la saison 4, part vraiment en mode Zébulon et
Mais oui, mais justement, on l'a pas assez vu.
Je suis d'accord, mais le peu qu'on le voit, il est très bien. Il est très bien.
Mais surtout qu'il avait une intrigue plutôt solide, la deuxième intrigue plutôt solide, c'était en saison 6.
Bah oui,
quand il va en prison, et dès que cette intrigue est résolue, bon, bah, c'est.
Il disparaît, hein.
Plus besoin d'en parler.
De toute
et
façon.
Et il va se coucher avec Alinda et pour qu'elle le maltraite un peu plus encore, quoi.
Ouais, c'est clair. J'avais jamais réalisé à quel point il se faisait maltraiter.
Mais
il était que ma petite souris.
Mais oui. Oh.
Non, mais pauvre mec blanc hétéro, et la première fois que je le dis de manière non ironique, quoi. Et riche.
Et riche.
N'oublions pas qu'il était riche.
Aïcha va lancer le hashtag Bring Back Our Mec Ma Souris.
Donc, moi, cette fin de série m'a énormément gêné.
Il y a un problème de fond sur. Toute la saison en elle-même, c'est que on sent que les Kings, qui dont le contrat s'arrête à la fin de la saison 7, mais dont CBS dit qu'il y aura une 8e saison, ils font qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on raconte cette année. Et pendant à peu près 12 épisodes, 15 épisodes, ils sont là, et on sait pas où on va, donc on y va un peu n'importe comment. Puis après, on fait alors là, les gars, finalement, on va boucler, ils font, on a une idée, et après, l'objectif c'est de tendre vers la scène finale, et peu importe si c'est con comme la lune, on ira à cette scène finale. Et voilà.
Ouais. Paradoxalement, ça me donne très envie de voir.
Ouais, mais t'as t'ennuyé un peu. Et attends, c'est Cory Barker du podcast de TV.com qui n'existe plus pour d'obscures raisons, qui avait une analyse assez intéressante, qui disait que la série avait été bousillée un peu après la saison 5, c'est-à-dire le grand arc où Alicia s'en va. Tout le monde a adoré, et effectivement, hein, c'était génial. Et pour lui, il se dit, bah tiens, les Kings ont interprété ça, l'enthousiasme général, ils ont interprété ça en disant, ah bah c'est ça que les gens veulent, c'est-à-dire des grands arcs spectaculaires où tout est chamboulé. Et donc c'est vrai qu'en saison 6 et 7, on est plutôt sur ce genre de structure. Alors que l'intérêt quand même de The Good Wife, c'était les procès épisodiques, c'était vraiment, les problèmes de société, les problèmes sur le numérique, etc., qui étaient traités quasiment nulle part ailleurs que dans The Good Wife.
La manière dont il parlait du numérique était effectivement très intéressante.
C'était ça, et depuis deux saisons, même si les personnages sont les personnages qu'on aime, de façon ponctuelle, il peut y avoir de très très jolis épisodes. Effectivement, ils avaient abandonné la structure initiale et l'idée initiale de la série, qui est une série épisodique avec des chouettes procès et des sujets de société, et qu'à partir de... Il y a eu un malentendu peut-être des Kings. Je trouve que cette analyse, elle est plutôt chouette pour expliquer ces deux dernières saisons pas complètement hyper enthousiasmantes.
Mais au final, vous retenez quoi de l'intérêt de raconter l'histoire d'Alicia? Parce que moi, en fin de série, je la connais toujours pas, cette fin. Son ambition politique a été totalement artificielle. Sa carrière, on avait l'impression qu'elle était, qu'elle était pas super impliquée là-dedans. Tout ce qu'elle aimait, elle, c'était le fight, c'était le sang.
Parce qu'elle-même, elle est toujours tiraillée entre l'envie d'avoir l'image de quelqu'un de respectable, d'être la fille bien rangée, bien propre, et en même temps tout ce qu'elle veut c'est être le personnage de Michael J. Fox, c'est-à-dire quelqu'un qui peut aller au carton et faire tout et n'importe quoi pour avoir ce qu'il veut. Et tout du long, c'est ce qui motive ce personnage qui finalement à la fin se prend une gifle parce qu'on lui renvoie en pleine tronche, bah voilà, t'as voulu, tu veux être la bonne épouse, mais en même temps t'es une putain d'ambitieuse, et la boucle est bouclée.
Alors sur ce point de la gifle, je lisais une interview de Christine Baranski juste avant de venir, où elle expliquait que Julia Margulies et elle ont eu beaucoup de mal avec ce script et typiquement cette gifle. L'idée, c'était deux femmes intelligentes qui auraient dû finir en montant un cabinet ensemble, qui auraient dû finir en travaillant de manière intelligente ensemble, enfin, se montrer encore une fois comme des antagonistes. Elle expliquait même que, indépendamment qu'elles finissent leur carrière ensemble, Alicia aurait très bien pu avoir une carrière une carrière politique, ça aurait pu expliquer sa porte de sortie et continuer la série avec Diane sans dénigrer cette amitié, sans dénigrer cette relation de deux femmes intelligentes et ambitieuses qui pourraient travailler ensemble. Vous pensez quoi, vous, de cette gifle?
Moi, sur le coup, elle ne m'a pas choquée, mais c'est vrai que maintenant que tu dis ça, ça me fait réfléchir et je suis très peinée de devoir réfléchir. Non, je suis très peinée de cette gifle. Oui, effectivement, ça renvoie à plein de problèmes des relations entre Alicia et Diane qui auraient dû être mieux traitées que ça, effectivement. Et surtout qu'au final, elle se dispute parce qu'Alicia était méchante avec le mari de Diane, quoi.
Pire que ça, parce que Alicia était jalouse de Diane.
Ouais.
C'est comme ça que les Kings ont justifié leurs propos.
Ouais.
C'est très catfight.
Ouais. Et c'était pas bien.
Non.
Du coup, moi, sincèrement, The Good Wife, vraiment pas me manquer. Surtout que cette saison, j'ai pas réussi à regarder les épisodes toutes les semaines. Depuis la première fois depuis très longtemps où ça y est, j'étais lassé dès la mi-saison.
C'est marrant parce que t'avais vachement bien décrit la mécanique des épisodes. Comment dire, bouclé, c'est-à-dire on arrive, le procès va comment dire, et il y a, ça va pas être un problème et tout, puis finalement il y a toujours un twist à la fin du prologue qui fait que finalement le combat va être beaucoup plus compliqué que prévu, et puis du coup il y aura toujours ces questions effectivement sur l'image, la représentation, et là finalement c'est ce que t'as pas du tout retrouvé, si je comprends bien, en saison 7, quoi.
Ouais.
Finalement t'as été lassé beaucoup plus vite par quelque chose qui était peut-être plus imprévisible mais du coup pas très logique que quelque chose qui est structurellement plus prévisible, mais en même temps était suffisamment riche narrativement pour surprendre encore.
Ouais, ça se rapprochait plus d'un scandale que d'un The Good Wife de ses débuts.
Ah ouais, quand même.
C'est vrai.
Oh, scandale.
Scandale qui était plutôt pas mal du tout cette saison 5. Hein.
Ouais, c'était chouette.
Voilà. Mais
c'est pas le propos de ce podcast, hein, encore une fois. Hein. Ouais. On a des thèmes dans ces podcasts, on aimerait bien les respecter, les amis. Hein.
Attention.
Bref, donc, est-ce que The Good Wife est en finale ou pas? Non. Ou est-ce qu'on se retrouve?
Non, mais si on dit non, Getting On gagne. Donc non, Delphine.
C'est fini, oui.
Donc en finale, on a Getting On et...
Galavant.
Et Galavant. Oh,
tombé, quoi.
Alors je vous rappelle que vous êtes 4. Que en cas d'égalité, seuls les 3 premiers votes compteront.
Non, mais moi j'ai un téléphone vraiment très lent.
Mais t'as qu'à changer, ça fait 3 ans que je te dis de changer de téléphone.
Ouais, mais moi je préfère que les enfants qui vont chercher des matériaux pour mon téléphone, ils aillent pas trop souvent dans la mine pour mourir, pour récupérer ce qu'il faut pour que j'ai mon nouveau téléphone pour jouer à Pokémon Go.
En attendant, pendant les votes, on a eu des retours sur notre second podcast Rejoins au Crève, où on nous a reproché à Iris et moi d'avoir fait pleurer un mec blanc, pour, non pas pour avoir dit du mal de Jane the Virgin, mais juste pour avoir dit que la série n'était pas parfaite et qu'elle manquait de moments dramatiques pour l'ancrer. Alors, Vincent Julet était censé poster quelque chose sur le forum, il a bonnet en touche. Jules est retourné se cacher. Nicolas et Fertis, vous avez un truc à dire sur le fait que Iris et moi trouvons que Jane the Virgin manque de moments dramatiques pour être... une vraie...
manque de moments émotionnels.
Émotionnels.
Non mais
je suis assez d'accord avec vous, en fait.
Quoi?
Je trouve qu'il y en a eu quelques-uns.
Dans ta gueule.
Non, il y en a eu quelques-uns et j'en aurais bien vu plus, en fait.
Mais il y a pas...
énormément plus, mais un petit peu plus.
Nicolas. Tu vois qu'il y a la voix de la sagesse habituellement.
Ouais. Dis-leur à quel point ils ont tort.
Je suis assez d'accord avec Gégé, je vous trouve un peu dur. Oui, évidemment, on peut toujours faire plus, mais faut pas oublier que c'est pas une dramédie pour le coup. Quand elle s'aventure sur des territoires plus délicats, elle le fait de manière qui répond parfaitement à son ton. Rappelez-vous du pilote qui nous parle quand même de...
D'un docteur c'est incompétent, parce qu'elle est femme et elle est trop émotionnelle pour faire une insémination artificielle de manière...
Qui nous parle d'une jeune fille coincée entre sa mère qui l'a gardée alors qu'à un moment elle se disait est-ce que l'avorte ou pas, et sa grand-mère qui dit non, t'as pas, jamais tu coucheras avant d'être mariée. C'est la scène, le sujet était super délicat, super touchy, et finalement ça passe alors qu'on est vraiment dans un registre de comédie. Donc
tu es en train de dire que les moments importants qui entrent la série n'ont pas nécessairement besoin d'être dramatiques, ils peuvent être véhiculés par des moments un peu plus légers.
Exactement.
Et pourquoi tu pouvais pas parler comme ça, toi, Léa ?
Parce que moi, je ne sais pas terminer mes phrases, donc c'est pour ça que j'ai pas pu le dire.
Ah, la voix de la sagesse, Nico. La voix de la réconciliation. Alors, je vérifie si j'ai tous mes votes. Et j'ai 4 messages.
Tu n'es pas boycotté le vote cette fois.
Ouh.
Mais elle a voté Clément.
C'est ce que j'étais en train de penser. Alors.
Je sais.
J'ai un vote pour Galavant.
Bouh.
J'ai un vote pour Getting On.
Oui. On se croirait dans Survivor.
J'ai un deuxième vote pour Getting On.
Oui.
Ah. Oh. Two votes Getting On. One
et vote j'ai un troisième vote pour Getting On.
Je le savais très bien, mais rien à foutre. J'ai quand même défendu l'honneur de Galavant.
Tu as raison.
Et quel est le message que tu as reçu en premier ? Qui a été le plus rapide ?
Bien sûr que c'est toi, Iris.
Yes !
Sauf que c'est pas vrai, voilà. T'étais la... Si, si, t'étais la première. T'étais la première. T'étais la première.
Je prends ça.
Eh bien, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver à un rythme moins régulier à partir du mois de septembre. Un rythme qu'on espère mensuel. Et normalement en septembre, on parlera des séries estivales.
Yeah!
Yeah!
À bientôt!
Ciao!
À bientôt!
Au revoir!